Écoutez le monde changer. 11h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
Très belle journée à l'écoute d'Europe 1. C'est parti pour une heure et demie de sourire, de bonne humeur grâce à Anne Romanoff et toute son équipe. Les meilleurs moments de Ça fait du bien, ça commence maintenant avec leur invité. Et quel invité ? Monsieur Garou était l'invité d'Anne Romanoff. Il a sorti son album Soul City en novembre 2019 et il sera en tournée dès novembre prochain. Alors vous nous parlez de l'album Soul City qui est sorti depuis fin novembre 2019. Quand je check la tracklist, quand je regarde la liste des chansons, désolé d'être bilingue, on reconnaît pas mal de standards comme... Et puis ça aussi. C'est vraiment des chansons idéales pour faire l'amour, ça, Garou, non ?
Ouais, entre autres, ouais.
Ouais.
Complètement. Dans la voiture, surtout.
Quoi ?
Ouais.
C'est mieux dans la voiture.
Ça, ouais, c'est ça, faire l'amour dans la voiture. Non, mais c'est un feel-good album, en fait. Oui, il y a des trucs plus sensuels, plus sexy, mais il y a beaucoup de festifs. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « c'est un album pour le temps des fêtes, c'est festif ».
Vous ne pensiez pas être capable d'aller dans les aigus ? En fait, si, c'est ça que vous êtes aperçu.
Oui, mais surtout cette espèce de passage qu'on appelle le falsetto, c'est quand on arrive à « na-na-na, losing you, wouldn't end my life, you see ». Ça n'a jamais été ma force de passer à cette voix de tête qu'on appelle communément. « Losing you ». Et finalement, dans ces chansons-là...
Le frimeur,
il s'est passé un truc.
J'y arrive pas. Il le fait crème. Tu vois. Laisse tomber, quoi. Moi, c'est pareil avec le triple supérieur. Regarde.
C'est
moi.
Fais un petit test de losing you.
Losing you. Laisse tomber là.
Voilà.
Alors, donc, on va écouter la chanson de Diana Ross que vous avez reprise.
No matter how long it takes, but how
ça veut dire il faut pas précipiter l'amour. Hein, ça veut dire quoi ça veut dire quoi précipiter l'amour, Garou?
Précipiter l'amour, c'est maman qui disait ça, hein, selon la chanson. Ma maman me disait du calme, quoi. Va pas trop vite en amour.
C'est une chanson sur l'éjaculation précoce.
Oh non,
elle a tout ruiné.
J'ai essayé de. Je suis pas anglais. Donc,
il faut expliquer.
Je ne chanterai plus jamais pareil.
Il faut expliquer à Benache que tout le monde ne parle pas de sa vie, quoi.
Alors,
je pense que je vais ralentir le tempo la prochaine fois.
Encore.
Dans cet album, Garou, vous faites aussi des mash-ups, enfin des mix, enfin des mélanges. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas à l'aise dans la langue de Shakespeare, vous pouvez. Non, mais vous avez mélangé par exemple Papa ou Assurance Rolling Stone et la chanson
avec War,
d'Edwin Starr. On écoute.
Papa was a Rolling Stone. Wherever he laid his hat was his home. Say it again. What is it good for? Well, absolutely
nothing. Il y a une technique particulière pour mélanger les chansons, Garou? Comment ça se passe?
Moi, j'adore faire ça. Dans tous les derniers concerts, j'ai fait ça beaucoup avec mes chansons. C'est-à-dire que j'ai pris Sous le vent, je l'ai mélangé avec Zombie.
Ça donne quoi?
C'est... Et si tu crois que j'ai eu peur... C'est plutôt les fans qui ont eu peur quand je l'ai fait. Ça donne une espèce de version rock... J'ai fait ça avec plein de chansons. Vraiment, je m'amuse à faire ça. Donc, quand est arrivé le temps de l'album, je me suis dit, pourquoi on ne l'essaye pas sur cet album?
Il y a un côté où vous voulez toujours vous amuser, Garou, en fait.
C'est clair. Moi, je me considère pas comme un grand artiste, comme un créateur. Je suis plutôt un récréateur. Et j'aime la récréation. J'aime m'amuser avec la musique. J'aime amuser les gens, surtout.
Pourquoi vous dites que vous ne vous considérez pas comme un grand artiste? Vous avez une voix magnifique.
Ben, un artiste, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui a besoin d'exprimer certaines choses, de créer, de... Moi, je suis un entertainer. En français, comment on dit ça?
Il n'y a pas d'équivalent.
En français, on dit un entertainer.
J'espère toujours qu'un jour, quelqu'un va me dire le le mot là qui...
Un conteneur peut-être. Un conteneur. On cherche, hein, on tâtonne.
Mais c'est vrai que c'est ça. Moi, pour moi, je suis plus un amuseur public qu'un grand artiste.
Mais vous êtes un immense artiste, Garou.
Je suis immense, oui, mais...
Tu vois, dans deux secondes, il va nous dire qu'il chante dans un karaoké.
Ben oui, j'adore c'est de faire un karaoké quand ça sonne bien.
Mais vous avez gardé cette simplicité de vos débuts dans les bars. En fait, vous n'avez jamais pris la grosse tête, finalement.
Non, j'ai toujours gardé le même esprit dans tout ça.
C'est les copains, l'alcool, les filles, le bar.
Bravo, Anne. Bravo, Anne de la recette.
Les copains, les filles, l'alcool, les bars, vous êtes quasiment français, en fait.
Ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff prend ses quartiers d'été.
Vous êtes bien sur Europe 1, les meilleurs moments de Ça fait du bien, c'est le programme pour vous tout cet été jusqu'à midi et demi avec Anne Romanoff, toute son équipe et leur invité, Garou. Alors Garou, vous êtes né à Sherbrooke au Québec.
Exact.
Hein, moi j'ai été à Sherbrooke.
Oui.
Et il n'y a pas beaucoup de monde.
C'est une petite ville et elle n'était pas suffisamment petite que là, depuis 2 ans et demi... J'ai acheté un endroit avec une forêt et tout, c'est encore plus petit. Et c'est merveilleux.
Vous avez acheté une maison avec une forêt ?
Ouais.
Une forêt, carrément.
Une forêt, carrément.
Ouais. Oh, c'est le Canada, hein, il y a un moment. Ouais, ouais. T'achètes une maison, t'achètes une forêt.
On a du mal à acheter un F2, nous. Ouais.
Et là, j'ai maintenant ma vraie cabane au Canada. Et,
ce qu'ils appellent un jardin, là-bas, nous, on appelle ça un département.
Et alors, vous vivez toujours... Comment vous faites, Garou ? Vous êtes tout le temps à cheval entre la France et le Québec ?
Non, on n'est plus à cheval.
On n'est pas l'avion. Pas l'avion.
Vous êtes à cheval.
Non,
mais... hey, Marie Chapdelaine, c'est fini.
Non, mais vous préférez vivre au Québec, vous? Vous êtes plus, vous sentez toujours plus
pour
québécois
moi,
ou...
plus la région là où il y a Sherbrooke, Magog, Offord aussi en ce moment, c'est une région qu'on appelle les cantons de l'Est. Et plus je voyage dans ma vie, parce que j'ai eu la chance de faire beaucoup de voyages, et comme je fais des tournées dans plusieurs pays. Et c'est vrai que là-bas, pour moi, c'est mon berceau. C'est là où je retourne et c'est là que je suis bien. Je dors avec mon cheval.
Curie.
Alors, au lycée, Garou, vous êtes le guitariste du groupe de votre école Windows and Doors. Et alors après, il y a 6 ans dans les bars où vous chantez. Et là, vous aviez de l'ambition d'aller ailleurs ou
Ça veut dire de 13 à 19, vous picolez.
je répète. Je répète le picolage. Mais en fait, c'est... Ouais, ça a été... je m'amusais, surtout que j'avais des offres de manager de maison de disques. Il y a plein de monde qui m'approchait.
Ah, vous avez des offres quand même?
Ouais, j'ai des offres à ce moment-là. Je dis non à tout.
Pourquoi?
Côté
puriste, moi je suis dans un bar, je bouge pas, c'est ça?
Je suis bien, j'ai un groupe de folk, de rock, de blues, de rhythm and blues. J'en fais dans tous les sens, de jazz.
Vous étiez dans plein de groupes en fait différents, vous aviez du travail tout le temps et vous vouliez...
C'était toujours ma formation, mais je prenais des musiciens différents et on faisait un répertoire différent. Et pour moi, c'était vraiment... J'apprenais plein de choses. Il y a des artistes qui vont faire... Des vrais artistes. Il y a des artistes qui vont faire un style musical. Ils vont toujours se camper dans ce style. Moi, pour le coup, j'ai essayé plein de choses différentes parce que je voulais comprendre, je voulais savoir manier différents types musicaux. Et c'est vrai que c'est pendant ces années de bar où j'ai exploré le mieux. Et après ça, ce qui m'a sorti des bars, ben, c'est Esmeralda. Luc Plamondon est venu me chercher et m'a lancé. Je pensais jamais traverser l'océan de ma vie.
À cheval.
Sur mon hippocampe.
Votre première audition devant Luc Plamondon, c'est mal passé. C'était dans Starmania. Vous avez dit ça m'intéresse pas. En plus, Et vous êtes arrivé avec une extinction de voix.
Ça, c'était bizarre. Ah, waouh. Bien renseigné. En effet.
Il l'a toujours, hein.
Ouais, c'est resté. C'est un ami à moi qui m'avait dit il y a des éditions pour Starmania. J'ai dit je veux pas faire Starmania. Il dit ouais, mais vas-y quand même pour rencontrer Luc Plamondon. Et j'avais joué cash, c'est-à-dire que je suis arrivé à l'audition, j'ai dit écoutez monsieur Luc Plamondon, je veux pas perdre votre temps, je veux pas faire Starmania. Mais je suis venu quand même et un ami qui m'a dit de venir vous rencontrer. Il a trouvé ça rigolo. Et en effet, j'avais ma première vraie extinction de voix. Ça devait être la nervosité en fait qui avait créé ça. Et il me dit non mais tu veux pas essayer une chanson puis on a essayé le blues du businessman au piano. Et quand je suis arrivé à la partie, évidemment, qui explose, j'aurais voulu être un artiste. Ça s'est très mal passé. Et j'ai dit, bon, excusez-moi, j'ai arrêté tout. Hein. J'ai dit, excusez-moi, je ne peux pas chanter. C'est impossible de chanter aujourd'hui. Et Luc Plamondon, première rencontre, enlève ses lunettes, ce que j'ai rarement vu. Il a enlevé ses lunettes noir, et il a dit, mais c'est quoi, toi, quand tu chantes ici, aujourd'hui, tu me dis que tu peux pas chanter. Et il m'a dit, déjà, d'ores et d'office, il a dit, je suis en train de travailler une nouvelle comédie musicale, je vais penser à toi. Et finalement, j'ai pas eu de nouvelles pendant 2 ans et demi, 3 ans. Les seules nouvelles que j'avais, c'est que oui, il y avait une comédie musicale Notre-Dame de Paris, et il y a le tout Québec qui avait auditionné. Et vraiment, je suis arrivé à la toute fin des auditions. Et apparemment, ils n'avaient pas encore trouvé leur Quasimodo. Et quand je suis arrivé, Luc Plamondon a dit à Richard Cochiante, il a dit, c'est un chanteur de blues, des bars. Et Cochiante, apparemment, il n'était pas très friand de ça. Et l'audition, ça a duré 4 heures de temps. Je me suis assis au piano et ça a fini en 2 heures de blues avec Cochiante, qui était devenu fan de blues. On s'est régalé, une audition de folie. Ils ont dit, on te voit demain matin, mais c'est toi qui fais Quasimodo.
Alors, Garou, il y a une rencontre qui a été très importante, c'est celle de René Angélil.
Oui, complètement.
Vous dites que quand vous lui avez serré la main, vous avez senti un fluide.
Oui, c'était sur un plateau de télé. Et nous, on devait repartir aussitôt parce qu'on avait un spectacle de Notre-Dame de Paris. Donc, je chante pour Céline, on est plusieurs à chanter, on rencontre René avant le départ. Je lui serre la main et je monte dans la voiture. On est vraiment partis en trombe et je suis resté là-dessus. Je me suis dit, mais quelle poignée de main. J'ai senti comme un courant qui passait. J'ai rarement dit ça dans ma vie. Hein. Je pense que c'est la seule fois d'ailleurs que j'ai dit ça. Le courant est déjà passé d'autres fois, mais,
oui.
Mais pas à ce point. Il s'est passé un truc et c'est drôle parce que des années, ben, pas des années plus tard, en fait, 7-8 mois plus tard, je signe avec eux. Donc, je fais partie du spectacle de Céline pour le 31 décembre 99. Et on décide, ils me disent qu'ils veulent travailler ma carrière. Et ils me disent, tu sais ce qui m'a plu en toi? Il dit, ce que j'ai aimé, c'est ta poignée de main. J'ai dit, mais c'est hallucinant, René. J'ai raconté ça à tout le monde quand je suis monté dans la voiture. J'étais impressionné par la poignée de main qu'on avait eue.
Heureusement, vous ne l'avez pas fait la bise. Hein?
Elle va savoir où ça serait fini.
C'est ce qu'il a fait avec Céline, apparemment.
Tout l'été, Europe 1 vous accompagne dans la bonne humeur grâce à Anne Roumanoff et toute son équipe. Les meilleurs moments de Ça fait du bien. Ça continue dans un instant avec la chroniqueuse Maya Mazorette. Mais juste avant cela, on s'écoute celui qui était l'invité d'Anne Roumanoff il y a un instant. Garou avec un classique Belle sur Europe 1.
Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps un jour telle. Un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de guitare. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, ô laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel? Elle porte en elle le péché. C'est la porte du jardin d'Esmeralda. Mmh.
et ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent. La demoiselle serait-elle encore plus saine quand ses mouvements me font voir monts et merveilles sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Avant de vous avoir mené jusqu'à l'autel, quel est l'homme qui détournerait son regard d'elle, sous peine d'être changé en statue de zèle. Ô fleur de lys, je ne suis pas homme de foi, j'irai cueillir la fleur d'amour. Je poserai mes yeux sur sa robe de victoire. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Que celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda.
Garou, Notre-Dame de Paris, la comédie musicale à succès, ce titre belle. Restez avec nous, vous vivez les meilleurs moments de Ça fait du bien avec Anne Romanoff et toute son équipe. Et voici maintenant leur invitée, la chroniqueuse sexo Maya Mazorette.
Maya Mazorette, vous sortez simultanément deux livres sur la sexualité, Sortir du trou, lever la tête, paru le 9 janvier aux éditions Anne Carrière, et Le sexe selon Maya, au-delà des idées reçues, paru le 9 janvier aussi aux éditions La Martinière. Deux livres en même temps?
Oui, absolument, c'est pour pouvoir lire à deux au lit et puis éventuellement pouvoir les lire tête bêche en 39.
J'ai lu tout seul, moi, j'ai lu tout seul, mais en tête bêche.
Oh là là, mais je suis tellement désolée pour vous. Eh bien, vous avez bien besoin de mes conseils.
Oui.
Par exemple, quand vous avez un partenaire, ça ne lui met pas trop la pression?
Ah ben grave, moi, je voudrais. Il fallait écrire un bouquin, quoi.
Ah ouais. C'est vrai que je pourrais écrire un livre entier sur la question, c'est une très bonne idée.
Tu te dis, je vais finir dans le tome 2, moi encore.
Oui, oui, mais bien sûr, mais c'est exactement ça. En fait, bon, alors moi, j'ai une vie de couple, mais les hommes qui pourraient être intéressés par moi en tant que partenaire sexuel me disent, mais j'oserais jamais coucher avec toi parce que j'aurais beaucoup trop peur. Mais c'est même pas la question, en fait, d'écrire un livre sur la question ensuite. C'est la question d'être jugé. Et c'est très marrant parce qu'en sexualité, souvent, on est tellement vulnérable, on a peur d'être jugé. Alors que tout le monde juge tout le temps et que si on jugeait pas les autres, ce serait une espèce de défaite de l'intelligence aussi.
On a plus peur, enfin c'est vraiment intime.
Toi, t'as pas confiance en toi, toi.
Mais ça, ça c'est aussi une réflexion d'homme, vous voyez, parce
L'homme, je pense que l'homme est plus timide, enfin a plus peur de se faire juger que la
Bien
femme.
Sûr, parce que jusqu'à
présent,
la société
nous renvoie l'image de l'homme fort.
Mais laissez-moi terminer ma phrase. Laisse-la parler, s'il te plaît.
Excusez-moi, il a bu,
Non, mais c'est un sujet que je maîtrise quand même pas mal.
Non, la performance sexuelle repose encore aujourd'hui beaucoup sur les hommes, et on voit bien qu'il y a 44% des hommes qui disent avoir déjà souffert de devoir performer sexuellement, et que finalement, ce serait intéressant si les femmes se posaient plus souvent la question de savoir si elles sont compétentes,
bien
si elles vont être jugées, pourquoi, pas forcément l'étoile de mer.
Chérie, tu nous écoutes.
L'étoile de mer, c'est quoi faire l'étoile de mer? C'est la femme qui reste inerte.
Exactement, avec les bras et les jambes écartés, et puis l'équivalent masculin, c'est le concombre de mer.
C'est quoi le concombre de mer?
Ah non, on va pas vous faire un
croquis. C'est pareil, c'est le type qui reste inerte et qui attend qu'on vienne le chevaucher.
Je vais vous faire un dessin, attendez.
Ah oui? Ouais. Ah oui, je ne connaissais pas le concombre. L'étoile de mer, j'avais entendu parler, mais.
Mais le concombre de mer.
Vous avez déjà été, vous, confronté à des étoiles de mer?
Oui, oui, oui.
Bah, oui.
Il n'y a pas si longtemps.
C'est vrai? C'est un cauchemar pour les hommes, ça?
C'est pas un cauchemar, parce que pour moi, l'amour est une fête, mais. et je sais être festif. Pour faire un bon match, il faut deux bonnes équipes. Et
ah, ça me fait plaisir que vous disiez ça. Les conditions ne sont pas toujours réunies, en fait. Il y a 40% de femmes qui prennent rarement ou jamais l'initiative sexuelle. Et il faut bien voir que quand elles le font, elles ont tendance à être jugées pour ça.
Mal jugées, effectivement.
Oui, voilà. On
appelle ça. Est-ce que vous allez prendre l'initiative sexuelle? C'est quoi exactement? C'est-à-dire déclencher?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire pouvoir demander. On dit souvent, en fait, les hommes proposent, les femmes disposent. Et ben, c'est justement pas faire que disposer, être aussi une forme de proposition.
Bien sûr.
Avoir des envies, avoir des fantasmes, c'est-à-dire travailler éventuellement sur son désir, s'inspirer en lisant des bouquins, en regardant Netflix. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un espèce d'imaginaire qu'il faudrait construire pour que les femmes prennent la permission d'être plus actives au lit. Et puis, les hommes aussi, des fois, faire un pas en arrière pour laisser le désir des femmes s'exprimer.
C'est ce que j'essaye de faire. Mais en plus, je suis asthmatique, pour vous dire. Mais c'est vrai que...
Oui, vous dites, il n'y a pas que la pénétration, il y a d'autres, d'autres types
de... Bien sûr, il y a tellement de choses à faire. Et puis, c'est vrai que quand on se met la pression de dire il faut deux pénétrations par semaine et que c'est toujours la même pénétration, évidemment qu'on s'ennuie parce qu'on fait toujours la même chose. Quand on s'ennuie, on est aussi moins présent à soi, à son partenaire. Du coup, on a l'impression que ça renforce un peu cette espèce de cycle de l'ennui. Donc moi, je propose aux gens, à travers mes livres aussi, d'élargir le répertoire pour faire quelque chose de très solaire, très lumineux et qui ne passe pas forcément par des pratiques un peu hard, qu'on appelle la sexualité pimentée. Vous avez lu ça, évidemment, dans tous les magazines.
Il faut pimenter sa vie sexuelle. La sexualité vanille.
Voilà, c'est ça. C'est toujours, sinon, un petit peu, on va s'attacher, on va se taper dessus, on va aller dans des orgies. Et c'est très chouette tout ça, mais c'est vrai que ça ne marche pas pour tout le monde et puis que ça peut blesser beaucoup de personnes, notamment les jeunes qui commencent leur sexualité. Donc moi, je propose des alternatives, mais qui ne blesse jamais.
C'est quoi comme alternative ?
Eh ben moi, je propose...
Attendez, je note, parce qu'il faut que...
Très bien.
Allez-y.
Je propose les masturbations guidées, partagées, les massages prostatiques.
Prostatiques.
Les sextoys, bien sûr.
C'est dans les fesses, dire...
Ah oui, alors très bien, parlons ça. Parlons prostate.
C'est le doigt dans les fesses, hein, ça.
Oui, tout à fait, exactement.
22%. Ouais, bah oui, maman,
des Français et des Françaises ont déjà essayé. 22%, c'est pas mal quand même. Non, ça marche cette histoire, parce que jusqu'à présent, là, on a beaucoup parlé du fait que sur le corps des femmes, on ne parlait pas du clitoris, c'est-à-dire qu'il restait plus que le vagin. Mais il faut faire maintenant la même déconstruction sur le corps des hommes. Et on parle toujours du sexe masculin comme étant juste le pénis. Mais le système génital masculin, c'est aussi les testicules, c'est aussi la prostate. Et là, on s'aperçoit que quand on stimule les hommes de l'intérieur et de l'extérieur, on obtient ce qu'on appelle des super-orgasmes qui sont plus longs, plus intenses et plus profonds que les orgasmes obtenus simplement avec la stimulation du pénis. Donc il y a encore un espèce de...
Moi, j'apprends des choses.
Champ incroyable de la sexualité comme ça, dont on ne parle pas alors qu'elle marche très bien, qui sont des pratiques qui font pas mal, qui ne sont pas techniquement difficiles à faire du tout. Mais... Donc voilà, libérons les hommes maintenant qu'on a libéré les femmes.
En ce moment, je suis en pleine reconquête sentimentale. Comment je peux présenter à une jeune femme, parce que mes histoires ne marchent pas beaucoup sur la longueur, mais comment je peux lui présenter, Bayan, j'aimerais bien une petite exploration prostatique.
Il y a le célèbre dicton, doigt dans le cucu, jamais déçu.
Ou même les pros se tâtent. Mais bon, quand même, là, c'est vrai que c'est compliqué.
Tu lui offres le livre et elle le lit.
Ah oui.
Y a tout un vocabulaire et peut-être tout simplement dire, voilà, il y a cette chose formidable qui marche très bien, qui est le massage prostatique, pouvoir éventuellement dire j'en ai rêvé cette nuit, pouvoir reposer par exemple sur les séries télé, sur les films.
Mais à part
où on
ça,
voit
vous n'avez pas
plus
d'autres suggestions? Parce que moi, ça ne me branche pas trop. Ouais. Ça.
Oui, ah bah, les sextoys par exemple, parlons un peu technologie, ça permet d'avoir des sensations physiques qui, littéralement, n'existaient pas avant ces dernières années. Pour vous, une femme disposant d'un clitoris, je présume, il y a depuis 2 ans des pulsateurs clitoridiens qui utilisent les ondes sonores pour stimuler le clitoris. Ouais, ça n'existait pas avant. Donc c'est un peu comme des vibromasseurs augmentés.
Pulsateur
clitoridien, ça coûte pas très cher.
En fait,
ça
c'est Céline Dion qui
bien
te chante dans le clito.
Non, ils ont pas encore fait la version Céline Dion, ça serait intéressant.
Fabien, il y a un truc à faire.
Ouais, vous êtes un vrai entrepreneur dans l'âme en fait. Hein.
C'est ça.
Un vrai psychose. Donc ça c'est ça. Bon, et alors
pulsateur clitoridien, il y a aussi, il y a aussi plein de choses pour les hommes. Là, il y a des machines à fellation avec intelligence artificielle. Et oui.
C'est pas vrai, ça coûte combien ça?
Je crois qu'ils sont à $260, un truc comme ça.
Dollars.
Ouais.
Bon, c'est moins cher qu'un iPhone.
Moi, je suis sur Amazon, là, j'en ai commandé. Qui en veut, moi, je...
Vous venez nous présenter votre livre, on se donne des nouvelles. En même temps, on se dit pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est quoi la nouvelle? Vous aviez envie de donner des nouvelles? On vous en demandait souvent?
On m'en demande souvent. Souvent, les gens que je croise dans la rue me demandent ce que je fais aujourd'hui dans ma vie. Et donc, je suis toujours étonnée parce que ça fait quand même 30 ans que je fais la même chose. C'est pas rien, 30 ans.
30 ans journaliste à Paris Match.
30 ans journaliste à Match.
Vous êtes très fidèle.
Ce que j'ai dit, c'est dans ce livre, c'est ma plus longue union.
La plus longue union, elle est professionnelle.
Elle est professionnelle. On ne peut pas prendre des risques partout. J'en ai plus pris dans ma vie sentimentale.
On se donne des nouvelles. C'est un livre aussi qui peut s'adresser à ceux qui vous disent on s'appelle et qui n'appellent pas. Parce que moi, quand je dis à un homme, bon, bah, on se donne des nouvelles, normalement, il peut déjà déclencher l'alerte enlèvement parce qu'il n'est pas prêt de me revoir.
Non, moi, c'est l'inverse. Quand je dis à quelqu'un on se donne des nouvelles, c'est que vraiment, j'ai envie d'avoir des nouvelles.
Ah oui, parce que des fois, c'est une phrase polie qu'on dit.
Non, moi, c'est je suis polie, mais pas que. C'est sérieux. En plus, j'ai aimé jouer avec le mot nouvelle. Parce que c'est les nouvelles, c'est ce qu'on écoute à la radio, c'est les infos, les informations. Moi, quand j'étais petite, on écoutait les nouvelles. Voilà. Donc, et puis troisième entrée du mot, ce sont des petits textes. Et ce que j'ai fait, ce sont des textes comme ça, assez courts.
Alors, vous racontez qu'après votre rupture amoureuse, Valérie Trierweiler, vous avez rencontré l'amour, là.
Ouais, bah il a fallu 5 ans quand même, mais
bah c'est bien.
Oui, c'est bien.
Ça donne de l'espoir, vous
mais
pensez
sûr après 50 ans, hein.
Une femme célibataire est peut-être un peu aigrie, peut y trouver de l'espoir. C'est pas pour moi, c'est pour une amie en fait.
Bien sûr.
Ouais, ouais, et là, bah... vous êtes avec un rugbyman d'1m92.
Voilà, un ancien rugbyman.
Vous dites Valérie Trinavalère qu'après on va dire votre mésaventure avec François Hollande, beaucoup de femmes sont venues se confier à vous dans
oui,
la rue.
Oui, je peux ouvrir un cabinet ou faire une rubrique. Je peux vous. Ménie que... Grégoire, c'était ici, c'était sur Europe. Bah, je peux la remplacer.
C'est-à-dire toutes les femmes ouais. trompées, bah, oui. venez
bah,
vous
toutes,
voir.
Toutes en fait, toutes.
Bah, toutes, hein, du coup, toutes, ouais, voilà.
Exactement. Non, mais c'est vrai.
Elles sont dans venues les... se confier
oui,
à
oui,
vous.
Oui, dans les rayons du supermarché, sur le marché.
Oh, ça doit être un moment, vous en
partout,
pouvez plus.
Mais dans les salons du livre.
Ça doit être lourd quand même de devenir le symbole des femmes trompées en France, quoi.
Il y a des hommes trompés aussi qui sont venus vous
non.
voir
ou... Non.
C'est marrant, tu vois.
Ils sont allés voir François Hollande.
Non, bah non, il n'y avait pas de raison.
Et vous arrivez à les réconforter parce que quand quelqu'un arrive vers vous avec son chagrin...
Ouais, je vous ai envoyé un message, vous ne m'aviez jamais répondu.
Non. Non, mais en revanche, j'ai reçu des lettres d'hommes, dont une qui m'avait beaucoup marquée, beaucoup touchée.
Avait dit, ça restait entre nous.
Cet homme disait, si j'avais lu votre livre plus tôt, j'aurais été moins con tout au long de ma vie.
Ça,
voilà.
C'est beau.
Je le dis pour les hommes qui sont là.
Bon, bah, je vais aller le lire. Alors.
Soyons concrets. Comment vous faites pour réconforter, il y en a certainement qui nous écoutent, une femme qui vient.
Eh ben, je dis que voilà, le bonheur, c'est après. Comme je le dis en titre de chapitre, merci pour ces lendemains. Parce qu'aujourd'hui, je suis très heureuse de la liberté que j'ai retrouvée, de l'amour retrouvé.
Alors, vous savez que Valérie Trinavalère, nous avons le même âge, mais on fait plus jeunes toutes les deux. Vous racontez aussi dans ce livre des échanges avec Carla Bruni et Brigitte Macron.
Oui.
Vous dites qu'il y a comme une espèce d'amicale invisible des premières dames ou des ex-premières dames, parce que vous avez vécu la même chose.
Oui, il y a de l'empathie. De la sympathie et de l'empathie. Donc forcément, on se comprend. On a quand même dormi dans le même lit. Hein.
Oui, pas avec
pas
le même homme.
Temps,
non,
pas en même temps.
Et pas en même temps.
C'est la même lit.
J'avais
c'est
une
le
image
même
dans la tête.
C'est le même matin.
Non, je crois que ça change à chaque fois.
Alors, vous relatez un échange, Valérie Trier-Villers, entre Brigitte Macron et Carla Bruni, où Carla Bruni vous dit, toi, tu es vraiment de gauche.
Et alors, elle me voit, elle me dit, mais oui, vous, Valérie, c'est différent, vous êtes vraiment de gauche.
Et Carla Bruni vous dit ça.
C'est Carla Bruni me dit ça et Brigitte a surenchéri en disant oui, je connais Valérie, elle est vraiment de gauche. Voilà. Donc j'étais adoubée vraiment de gauche.
Et vous êtes vraiment de gauche, et Valérie
Je suis
Trinavalère.
Vraiment de gauche. Je crois que je le suis de plus en plus.
Vous n'êtes pas désespérée par l'état du Parti Socialiste
ben si, bien sûr. Et en même temps, je ne crois pas à sa disparition. Je
vous l'avez
pas
suivi pendant des années pour Paris
ouais,
Match
Oui, pendant des années, trop longtemps. Parce que ça m'a passionnée. Je connaissais tout des courants du Parti Socialiste. Et je me dis, j'ai quand même perdu beaucoup de temps à me passionner avec ça. Et quand même aussi des choses plus intéressantes. Et en même temps, puisque l'expression est à la mode, je ne crois pas à sa disparition. Je ne crois pas qu'un parti comme celui de Jaurès, celui de Blum, puisse disparaître. Voilà, c'est quand même le parti des congés payés, du Front Populaire. Je ne me résous pas à ce que ça disparaisse.
Et alors, voilà. Un conseil pour les dirigeants
actuels ? Moi, je ne sais pas, j'attends que quelqu'un reprenne le flambeau. Et
qui revienne à gauche, par exemple ?
Par exemple, exactement.
Qui vous voyez au Parti Socialiste qui pourrait... Parce que vous connaissez tous les courants, tous les...
Oui, mais enfin, bon, tout ça a changé, tout ça a beaucoup disparu, beaucoup sont partis marcher, d'autres sont restés sur place, et en même temps, beaucoup sont partis, et ceux qui sont partis, en fait, sont celles qui sont parties. Parce que presque toutes les femmes sont parties. Qu'on les aime ou pas, Aurélie Philippetti, c'était des femmes de talent, elles sont parties. Aurélie Philippetti, Najat Vallaud-Belkacem, Cécile Duflot, voilà, pour les Verts. Et c'est un peu la même chose à droite. Nathalie Kosciusko-Morizet, elle est partie. C'est-à-dire tous les espoirs des partis politiques sont partis. Pourquoi ?
Parce qu'elles manquaient d'espace, non ? J'imagine, parce que, là où elles étaient.
Voilà, parce que c'est trop dur, parce qu'elles manquent d'espace, parce que sans doute il y a trop de débats stériles et que les femmes aiment moins perdre leur temps que les hommes, je crois. Et voilà, et qu'on leur met trop de bâtons dans les roues.
Donc le sexisme est toujours très présent en politique, dans le journalisme, Valérie Trinavalère.
Journalisme, je ne sais pas.
Vous aussi, on le voit bien quand vous êtes interviewé, on vous réduit finalement au rôle d'ex-compagne de François Hollande. Alors, vous avez 30 ans de carrière de journaliste.
Est-ce que c'est du sexisme, ça ?
Vous avez écrit 3 livres.
Oui, et 1500 articles.
Voilà. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui... C'est un peu agaçant, ça, quand même.
Non, mais d'abord, il y a les gens dans la rue qui peuvent ne pas lire Match ou quand ils lisent, on regarde beaucoup moins les signatures.
Mais je parle des gens
signatures.
Des médias qui savent très bien.
Les gens des médias, ils redécouvrent, c'est vrai. Beaucoup me disent, mais je ne savais pas que vous aviez fait tout ça. Voilà, c'est vrai, 30 ans, c'est beaucoup, hein. quand même.
Et bah, bah, c'est, je sais bien, oui.
Mais c'est une vie, en fait.
C'est la sienne.
Vous avez 30 ans ?
Ouais, c'est ça.
Ouais, mais un jour, vous aurez mon âge, vous verrez. Hein.
C'est ce que je me souhaite.
Vous écoutez Europe 1, il est midi. Les titres du journal de midi et demi avec vous, Julien Pierce. Bonjour Julien.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. À la une de ce journal, on vient de l'apprendre, une vaste enquête ouverte par le parquet de Paris. Enquête sur des fraudes massives au chômage partiel impliquant des flux financiers internationaux. Préjudice estimé plus d'1,7 million d'euros. Des faits qui relèvent de l'escroquerie en bande organisée. Explication à venir d'Alain Accot. Nous irons ensuite à Dijon, dans le quartier des Grésilles, où se sont rendus ce matin le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Intérieur Gérard de Darmanin, près d'un mois après les violents affrontements entre jeunes locaux et communautés tchétchènes. Pour la première fois depuis sa nomination, le Premier ministre est allé au contact de la population. Il a également fait des annonces que nous détaillera notre envoyé spécial Jean-Gabriel Bourgeois. Maintien de l'ordre également à l'honneur, des ultimes recommandations de Jacques Toubon, le défenseur des droits, qui va passer la main dans une semaine. Il vient d'adresser à Gérald Darmanin une liste de préconisations. Il réclame notamment à nouveau l'interdiction des très controversés LBD, les lanceurs de balles de défense. Nous vous emmènerons ensuite dans une entreprise en très grande difficulté, mais où salariés et syndicats sont soulagés. Il s'agit de l'équipementier aéronautique Safran, première entreprise en France où un accord de chômage partiel de longue durée a été signé. Certains salariés auront un temps de travail réduit de 40%, mais grâce à la compensation de l'État, ils toucheront la quasi-totalité de leur salaire net. Nous entendrons la nouvelle ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui répond aux partenaires sociaux, syndicats et patronats, vent debout, vous le savez, contre une reprise des négociations sur la réforme des retraites. Pour la ministre qui était l'invitée ce matin de la matinale d'Europe 1, on peut tout faire pour préserver l'emploi tout en travaillant de concert pour réduire les déficits. Je n'oublie pas le très attendu tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Il débute en ce moment même au siège de l'UEFA en Suisse. On connaîtra d'ici quelques minutes le futur adversaire du PSG et aussi celui de l'Olympique Lyonnais. Si toutefois les Rodaniens arrivent à se qualifier face à la Juventus Turin, ils avaient gagné à l'aller en 8e. Il leur reste un match pour se hisser dans le dernier carré. Enfin, en ce jour de départ en vacances, on vous donnera le repas idéal pour ne pas s'endormir au volant. C'est la première cause de mortalité sur autoroute. Alors si vous êtes devant les rayons sur la station, petit indice, oubliez les burgers et autres chips. Très bon appétit et à tout de suite.
Il va falloir manger léger. Merci beaucoup Julien. Rendez-vous à midi et demi pour le développement de tous ces titres. En attendant, c'est le meilleur d'Anne Roumanoff. Ça fait du bien jusqu'à midi et demi.
11h, 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Roumanoff.
Merci d'avoir choisi Europe 1 tout cet été. La bonne humeur au programme avec le meilleur de Ça fait du bien. Anne Roumanoff entourée de toute son équipe et leur invité qui lui aussi était en forme. Édouard Baird qui reprendra son spectacle Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce. C'est au Théâtre Antoine et c'est à partir du 20 janvier 2021.
Édouard Baird, le titre de votre spectacle, ça ressemble... Moi, mon spectacle a failli s'appeler « Les élucubrations d'une femme soudain frappée par la graisse
oh ». Bon, on m'a dit que c'était pas vendeur et que ça rentre jamais sur l'affiche s'il y avait déjà ma photo.
Oui, ben moi je me sers plus gentil. Je suis plus gentil avec moi que vous avec vous, alors sans doute. Oui, ça se la raconte. Non, mais c'est un titre, d'ailleurs, j'en parle dans le spectacle. Je sais pas ce qui m'a pris, en fait. C'est un... Les élucubrations, c'est une façon de... C'est pas les divagations, c'est une façon de parler un peu comme quelqu'un qui croit être inspiré, tout à coup qu'il y a un flux de mots qui
lui
arrive.
Alors c'est comme un happening ce spectacle, parce que vous arrivez sur scène et vous dites que vous jouez dans...
Oula,
vous êtes des secrets, faut pas le dire.
Non, mais... Oui, parce que c'est en direct en fait, ça se passe vraiment là, et les spectateurs sont amenés dans la fiction. Donc j'arrive...
Il y a même un moment où vous demandez aux gens de vous cacher.
Oui, mais je viens me réfugier dans le théâtre, c'est quelqu'un qui vient se cacher, qui s'est enfui. Et quand on s'enfuit, plus les minutes passent, plus c'est emmerdant, plus c'est compliqué de revenir dans sa vie d'avant. C'est un type qui en fugue, comme quand on dit « je vais sortir le chien » à sa femme, et puis deux mois après, ben dis donc, le chien, il était... Oui,
ça vous est déjà arrivé, ça, Edouard Baird, de partir sortir le chien? Vous n'avez pas de chien?
Non, mais on peut sortir l'équivalent d'un chien. Enfin, on peut, voilà, l'absence de chien, on peut sortir rien. Mais enfin, en tout cas, la tentation de fuguer, de disparaître de chez soi et de sa vie, je pense que ça nous arrive tous, même quelques secondes, même dans des moments où on croit être très heureux ou très amoureux, on peut avoir dans notre cerveau, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est ma vie?
Se laisser aller à la lâcheté, en fait.
Alors, la lâcheté ou le courage de
moi, j'ai jamais envie de disparaître
de
ma vie, moi, vous êtes un peu spécial.
Mais si je vous ai vu là, pendant une seconde, vous m'avez regardé, qu'est-ce que je m'emmerde à cette émission. avec cet invité-là. Vous avez... Non, mais pendant
deux
secondes.
C'est parce que j'ai faim, en fait.
Pour la vérité. Un petit quart de seconde, vous dites est-ce que c'est vraiment, est-ce que je suis dans ma vie ou pas, est-ce, ouais. Est-ce que c'est
ah
ça
non,
ma
mais
vie
moi, j'ai pas
c'est
ça, vrai non.
Vous avez de la chance.
Alors, vous avez vous caressé un rêve, d'ailleurs.
Ah non, mais c'est un titre absurde. J'avais lu ça. J'ai fait une interview dans Le Figaro et l'article s'intitulait Je caresse un rêve, d'ailleurs. J'ai vraiment dit cette phrase-là, grotesque. On imagine un type qui caresse des rêves.
Non, mais il paraît que vous rêvez d'aller créer un centre créatif à Montréal ou en Afrique.
Ah, parce que j'adore les villes francophones et puis ça m'amusait.
À Dakar ou à Montréal, vous voudriez partir, inviter des gens dans un endroit.
Je voudrais faire comme une sorte, un grand endroit où on ferait à la fois du théâtre, des émissions de radio, on pourrait faire des plateaux de cinéma. En France, les locaux sont trop chers, c'est très compliqué, les autorisations et tout ça. Tandis qu'il y a des villes où je me dis que c'est possible.
Vous êtes un utopiste, Edouard Baird.
Bah oui, j'essaye un petit peu quand même, parce que sinon, moi je rentre me coucher. Moi, je suis beaucoup plus dépressif que vous si je ne me bats pas.
Vous êtes vous n'avez pas l'air de répondre.
Non, mais je lutte contre, donc je fais des choses pour lutter, parce que je n'aime pas le
calme.
Le calme, le calme m'inquiète.
Vous ennuyez, vous avez peur de vous ennuyer.
Non, de trop penser.
Non, de m'effondrer. Ah, non,
en
ennuyer, c'est rien.
Vous pleurez
je pleure. Un homme qui pleure. C'est quoi la chanson de Reggiani, très belle? Un homme qui pleure. Non, ça vous dit rien du tout?
Non.
Le temps que ça me revienne, l'émission sera terminée.
Mais vous pleurez souvent, Edouard Baird?
Non, je pleure au cinéma très facilement.
Ah oui?
Ah oui.
Sur mesure, là, je vous dis de pleurer.
Non, au cinéma.
Ah, quand vous êtes
faites-moi
spectateur.
Une image. De... Ah oui, comme spectateur de cinéma. Un spectateur,
une maman
pardon.
Qui meurt, vous pleurez.
Ah, même avant qu'elle meure. Si elle commence à avoir un peu de fièvre, je m'inquiète. À partir de 37,4, à 37,4, je m'inquiète.
Alors, j'ai trouvé pour Serge Reggiani, si vous voulez savoir. Il faudrait bien qu'on me raconte pourquoi il faut toujours tricher, que l'on m'explique où est la honte pour un homme de pleurer.
Il faudrait bien qu'on me raconte pourquoi il faut toujours tricher et où est la honte pour un homme de pleurer. Pour un homme de pleurer. Ça me bouleversait, ça. Mmh. La voix de Reggiani, quand il prenait une chanson, il n'en a écrit aucune. Et à chaque fois, c'était comme, je crois, quand on confie une chanson à Johnny. Il l'a réinventée, il a repris des chansons de Moustaki, qui chantées par Moustaki sont pas mal, et tout à coup chantées par lui, Madame, votre fille a 20 ans, elle est extraordinaire. Mmh. Madame, le printemps vous oubliez, dit par Reggiani, c'est extraordinaire.
Europe 1, passez l'été avec Anne Roumanoff.
Très belle journée à l'écoute d'Europe 1, c'est l'été, ça fait du bien, on prend le temps et on réécoute ensemble les meilleurs moments de Ça fait du bien avec Anne Roumanoff et toute son équipe et l'incroyable et le drôlissime Edouard Baird qui remonte sur scène, il est de retour à partir du 20 janvier 2021 au théâtre Antoine avec son spectacle Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce. Au début du spectacle, vous interprétez un comédien qui s'est échappé du théâtre d'à côté. Non, mais je ne lis pas. Mais comment vous est venue cette idée? C'est un fantasme? Vous avez déjà voulu faire ça? Ou vous n'allez pas, par exemple, vous échapper de cette émission pour aller vous réfugier sur RFM? Ou est-ce que vous êtes déjà échappé d'un projet foireux, Edouard?
Oui, mais c'est une chose merveilleuse dans la vie quand les gens vous disent là, tu ne peux pas partir ou là, on ne peut pas. Vous avez la preuve que si, je suis en train de le faire. Et c'est une chose de fuguer. Moi, il m'est arrivé de faire l'école buissonnière comme ça, un rendez-vous important. Puis c'est vraiment odieux ce qui se passe, soit une émission ou dans la vie, ou des gens qu'on doit vous présenter. Et tout à coup, c'est évident qu'on ne peut pas partir. Bah, la preuve qu'aussi, on est en train de le faire. Et là, on se sent tellement libre. Et on marche dans la rue, on se dit, c'est extraordinaire, ma vie commence là, voilà.
Et puis vous perdez un contrat. Et
oui. Ah ben oui, il faut que ça
et
soit.
Et puis
pas
votre
ça.
Banquier vous téléphone.
Oui. Ça, c'est bien sûr. Non, mais on sait qu'on va payer le prix. Hein. C'est pas un truc. C'est face à des gens puissants ou à des gens intimidants qu'on fait ça. C'est pas face à des gens plus faibles que vous. Non. C'est ce qui est excitant, c'est ça. C'est de reprendre sa liberté.
Vous avez déjà dit merde à des gens importants, Edouard Baird?
Bah, c'est-à-dire, moi, ça m'intimide tellement les gens importants que je bois. Et alors, je deviens
vous
trop.
Buvez avant
oui,
d'y aller.
De peur d'être trop aimable. Alors, je bois, je deviens trop désagréable. Enfin, je suis pas à l'aise avec les. Avec les gens de pouvoir.
Là, vous avez bu avant de me rencontrer ?
Non, parce que vous êtes importante au sens... Vous êtes essentielle, mais vous n'êtes pas importante.
Ah, c'est génial.
Comment ? Ce qui veut dire, c'est qu'on a besoin de vous pour l'émission, mais que vous ne comptez pas du tout.
Voilà. Non, mais vous n'êtes pas... Vous ne représentez pas le pouvoir. Vous m'invitez, c'est très gentil.
Oui, c'est vrai.
Personne ne m'a forcé. Oui, je ne me dis pas, si je ne fais pas l'émission d'Anne Roumanoff, le spectacle s'effondre. Donc, c'est un plaisir d'être là. C'est un choix personnel. Il n'y a pas une 12 attachés de presse qui m'ont dit « Va chez Anne Roumanoff, faut faire monter tes chiffres. » Même si vous voulez aller voir le spectacle, chers auditeurs, quand même. Il me reste 3 places le 8 mai.
Vous allez être maître de cérémonie au Festival de Cannes.
Quelle carrière. Oh là, l'ami.
On vous demande souvent d'être maître de cérémonie, Edouard Baird. Vous avez fait le César, les festivals. Hein,
j'ai commencé à la semaine du saucisson. Je mets la saucisse à Montbéliard.
Comment ça se fait qu'on vous demande? Parce que vous avez un côté un peu chic, dandy.
Voilà, je porte bien l'habit, vous savez, on porte bien l'habit.
Vous êtes élégant.
Voilà, donc on me met là. Non, je sais pas. Bah, écoutez, moi, c'est quand on me demande pas que je me pose des questions, quand on vous demande.
Ça, c'est stressant quand même parce qu'il y a tout le cinéma, alors le cinéma mondial quand vous êtes au Festival de Cannes.
Oui, oui, c'est stressant, mais c'est ça qui est excitant. Je pense que vous aussi, on aime faire ces métiers quand on se fait un petit peu peur, quand on se dit comment je vais faire, qu'est-ce
mais là,
que je vais
écrivez,
faire.
Vous écrivez, vous cherchez des idées. Ouais. Là, vous travaillez.
Je cherche.
Vous avez trouvé quelque chose?
Non, quelqu'un.
Non, mais c'est pas les moments où on laisse de la place à l'imprévu, non?
Un petit peu quand même. Si, parce que même si vous avez tout prévu, il y a un truc. Moi, l'année dernière, je l'avais présenté, puis j'avais pas prévu qu'en fait, ils n'avaient pas dit aux photographes de s'asseoir. Et à Cannes, il y a 200 photographes devant la scène. Donc déjà, vous jouez pour le théâtre, parce qu'il y a 3-4 000 personnes, donc vous jouez pour la salle et pour la télévision aussi, donc déjà, inconsciemment, vous oubliez qu'il y a 200 photographes qui cliquent pendant que vous faites votre truc, et là, dit merde, et donc tout s'effondre un peu, donc un peu, j'avais oublié mon texte à cause de ça. Non, mais il faut se rappeler ce qu'on veut dire.
Vous avez oublié votre texte l'année dernière, on vous a redemandé cette année?
Oui.
Et puis ils ont trouvé personne ou quoi?
Oui. Pourquoi vous avez choisi? Les autres ont dit non. Non, mais là, c'est. Alors après, on a un peu peur dans ces trucs-là, quand vous ne faites pas des trucs humoristiques, vous faites des trucs trop pompeux, genre sur l'écran noir de nos nuits blanches, Cannes, magie, cinéma, la vie, l'amour, la mort, en 24 images, secondes, vous avez l'impression d'être grotesque, donc il faut trouver quelque chose. Bon,
ben, mais c'est des gens très durs à faire rire, ces gens-là, c'est les pires du monde.
Alors c'est pour ça que j'ai renoncé à faire rire dans ce truc-là. Je me dis que c'est trop. J'essaye d'écrire un truc un peu qui me touche. Et puis après, si tout à coup c'est détendu, on fait rire pendant. Quoi, voilà.
Et dans votre spectacle, par contre, on rit beaucoup, Édouard Baer.
Ben, je vous remercie. J'espère pas contre. Enfin, on se moque.
C'est pas de la moquerie,
on
non.
On se moque pas. Les gens rient sauf quand ils veulent faire rire.
Édouard Baer, vous racontez au sujet de l'école. J'étais très bon dans le primaire, dans l'école communale de quartier. Et puis après, quand il a fallu faire des devoirs à la maison, ça a été une succession de catastrophes.
Oui, c'est vrai, oui.
Pourquoi ?
À cause de ça, moi j'étais une petite vedette de l'école de quartier où on se connaît, vous savez, tout le monde se connaît là, jusqu'à la CM2, la 7e. Et puis voilà, il n'y a pas à faire des devoirs à la maison, alors tout est sur place. Et puis il y avait des personnages, ils disaient qu'ils allaient prendre du thé rouge à l'heure du goûter, ils allaient boire un coup de rouge, le prof de gym. Bon. Et puis après, vous arrivez dans un énorme machin. Quand j'étais enfant, j'adorais les bouquins de Marcel Pagnol, il racontait ça très bien, c'est que le primaire, c'est vraiment intime, tout le monde se connaît. Et puis on arrive tout à coup, les gens connaissent les gens par leur prénom, dans le primaire, tout le monde se connaît. Et puis après, c'est une énorme usine un peu.
Vous êtes très sensible aux relations humaines, Édouard Baer.
Ah ben oui, tout, on fait tout pour quelqu'un, je trouve. On fait tout.
Moi, à 18 ans, vous avez été au cours Florent pour suivre une jeune fille. Et là, vous tombez dans le cours d'Isabelle Nanty. Isabelle Nanty vous dit, si tu restais un peu. Et vous dites, ça fait 30 ans que je suis restée.
Ben oui, je crois que c'est. Alors, je l'ai redit parce que là, elle m'a énormément aidé dans le spectacle, Isabelle. Et je lui dis, au fond, c'est grâce à toi que je fais ce métier. Je dis, oh ben merde, elle me dit. si j'avais su.
Ça fait du bien, on est de bonne humeur grâce à Anne Romanoff et toute son équipe. Les meilleurs moments de l'émission aux côtés d'Edouard Baer jusqu'à 12h30. Il y a Ben H qui a été voir le spectacle hier.
Yes, oui, cher Édouard Baer, on me demande souvent si chroniqueur, c'est une bonne situation. Eh bien, c'est pas vous, je l'espère, qui allez me contredire, mais vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je crois qu'il y a simplement des moments ponctuels, éphémères, fugaces, ces moments qui nous traversent, qui nous échappent pour toujours, ces moments qui, eux, peuvent être bons ou mauvais. Ce qui entraîne une question subsidiaire, est-ce que chroniquer Édouard Baer, c'est une bonne situation? Là, je répondrais que non. Non pas que le génie de notre invité ne me mette pas dans un état d'admiration contemplatif totalement béat. Non pas que je sois ravi de vous rencontrer ce midi. Hein. Moi, des grandes années canal, je retiens que deux personnes, vous et Clara Morgan. Mais je reconnais, non sans une certaine aigreur, que je suis, comme bon nombre de clowns de ma génération, jaloux de notre invité. Hein, là où moi, il me faut 2 heures pour écrire un truc bien, Édouard Baer, il lui faut 2 secondes pour dire un truc mieux. Du coup, je me retrouve comme face à une femme trop bien pour moi. Je suis super excité, mais j'ai la plume un peu molle. Faut dire aussi que hier soir, au Théâtre Antoine, devant les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce, vous avez encore un peu plus exacerbé mon complexe. Hein. Nous autres troubadours, toujours en quête d'originalité, vous avez frappé super fort. Hein. Votre spectacle réalise par exemple le premier exploit d'être un pur seul en scène, mais qui se joue à deux. De toute façon, prenez tous les codes du seul en scène et du théâtre plus généralement, hein. Mettez-les dans un shaker, ajoutez-y des références à quelques monstres sacrés de la discipline, secouez bien le tout et vous aurez le spectacle d'Edouard Baer. Une alternance d'hommages poétiques, de monologues que seul votre célèbre verve peut exécuter, le tout dans une mise en scène aussi rythmée que surprenante. Et voilà, je vous avais prévenu, tenue, j'ai la plus molle, j'écris comme un critique Télérama. Faut dire que la pièce avait tout pour me plaire. La lâcheté et la fuite et sont deux grands thèmes du spectacle. Il y avait des chances que je m'y retrouve. Ma copine qui m'accompagnait s'y retrouvait visiblement aussi. À la fin, on a débriefé à la sortie du théâtre, comme font tous les couples normaux. Hein. Je lui parlais de la mise en scène, elle me répondait. Et puis il y a Édouard Baird, quoi. Je lui parlais des scènes qui m'ont fait hurler de rire, elle me répondait. Et puis il y a Édouard Baird, quoi. Je lui parlais de l'ambiance sonore, très réussie aussi, elle me répondait. Et puis il y a Édouard Baird, quoi. J'ai pas tout de suite compris ce qui lui avait plu dans le spectacle d'Édouard Baird. Et plus tard, en rentrant, on a fait l'amour. Et c'est quand elle a fini par crier « Oh, Édouard !» que j'ai finalement compris. Mais je ne lui en veux pas. Je lui en veux pas. Et je peux même la comprendre. Votre spectacle est vraiment réussi. Et pour une fois qu'elle crie. Alors merci, Édouard Baird.
Ça vous va droit au cœur, ce compliment, Édouard Baird.
Mais oui, parce qu'en plus, ils m'ont invité, donc j'étais là, donc c'est vrai.
Ils vous ont invité.
C'était à la maison. C'est des gens très accueillants. Bon,
il est très proche de son public, Édouard Baird.
Ce mec, en fait, c'est du Viagra pour filles.
Vous plaisez beaucoup aux femmes, Édouard Baird ?
Bien sûr.
Ah oui, oh, écoutez, alors jamais assez, parce qu'on se trouve. Non, c'est... Ben, qu'est-ce que vous voulez que je dise à ça?
Je ne sais pas.
Vous savez, les hommes qui disent j'aime les femmes, c'est ceux qui n'en aiment aucune qui disent ça. Non, mais je sais. Écoutez, je plais aux femmes. Je n'ai pas du tout d'être esprit très parti là-dessus. On aime plaire, mais il faut. On aime plaire aux hommes. Quand on fait ces métiers, on est un peu évidemment peut-être en trop de séduction. On voudrait que les chiens aboient sur votre passage, que les chats miaulent, que les tables tapent du pied.
Il y a une certaine aura autour, parce que par exemple, bon là, ça se voit pas, j'ai une casquette, mais capillairement, on est un peu semblables. Oui. Chez moi, c'est juste des coiffés, chez vous, c'est dandy.
Enfin, non, vous voyez, c'est... Oui, mais on veut être Jésus-Christ, sinon on fait pas ce métier. On a envie de marcher sur l'eau.
Vous avez toujours ce côté chic aussi, Édouard Baird.
Je suis extrêmement chic, sauf dans le privé. J'ai des crises de Depardieuisation à la maison avec un jambonneau.
Des crises de Depardieuisation, c'est quoi, Édouard Baird?
Ce Depardieuiser, c'est tout à coup d'être plus cru dans la vie, courir après des jambons, enfin des trucs comme ça.
Ça vous arrive?
Oui, je ne sais pas ce que je voulais dire par là.
Alors, vous aimez beaucoup les frites, Édouard Baird?
C'est une question de fond.
Oui, vous pouvez dire, Anne, dites, à ce sujet, vous aimez beaucoup.
Anne, c'est la métaphysique et la bouffe. Hein.
Vous dites les frites.
Du côté de Pardieu aussi.
Voilà, vous dites ça. Les frites, oui, mais alors les frites très très fines, très craquantes, pas les gros rectangles. Dans le cornet de frites, il y a souvent du trop large. J'aime bien que ce soit à la limite du brûlé.
C'est mon combat. Je suis un militaire. Alors il y a plein d'écoles sur les frites. Il y a beaucoup de désaccords. Ça me peut mettre des gens en colère. Peut-être qu'ici l'émission est en public. Je sens une vraie colère qui gronde, quoi. Là, je sens monter la colère. Hein. C'est mon côté élu macronien, le mec qui est dans son bureau tranquille, qui sent monter des choses. Non, mais les frites, oui, j'aime quand ça craque. Vous savez, il y a des frites où dedans il y a la patate. On oublie une fois que vous avez enlevé la peau, c'est plus de la frite dedans. C'est presque de la pomme de terre au four dedans. Et ça, c'est très grave.
Où c'est que vous mangez les meilleures frites, Édouard Baird?
Ah, il y a des très bonnes friteries dans le Nord, comme ça, qui sont... Et celles à la graisse de bœuf, elles sont formidables.
Édouard Baird, qu'est-ce que vous disent les gens dans la rue quand ils vous reconnaissent?
Quand ils me reconnaissent alors, il dit « Bravo, Monsieur Baird, on vous aime beaucoup.
» C'était le meilleur d'Anne Roumanoff, toute son équipe, ça fait du bien sur Europe 1. C'est tous les jours de la semaine de 11h à 12h30. Rendez-vous donc lundi pour de nouveaux invités, de nouveaux fous rires et de la bonne humeur sur Europe 1 tous les jours à partir de 11h. Restez avec nous dans un instant le journal de la mi-journée.